Il est 10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous, des manifestations prévues un peu partout en France, une mobilisation en hommage à Samuel Paty, cet enseignant d'histoire-géographie assassiné vendredi dans les Yvelines après un cours sur la liberté d'expression. C'est le cas notamment à Paris où une manifestation doit avoir lieu à 15h place de la République en présence du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Un hommage national lui est prévu mercredi. Et dans cette affaire, 10 personnes sont en garde à vue, parmi lesquelles les membres de la famille de l'auteur présumé du drame, un jeune Tchétchène de 18 ans abattu par les forces de l'ordre. Un parent d'élève, mais aussi Abdel Hakim Sifraoui, un prédicateur, figure de l'islamisme radical, dans le viseur des services de renseignement depuis une dizaine d'années. 34 500 nouvelles contaminations à la Covid-19 en l'espace de 24 heures hier en France. C'est dans ce contexte que près d'un tiers des Français ont expérimenté leur première nuit de couvre-feu. Circulation interdite, sauf exception, dûment encadrée par la loi de 21h à 6h du matin dans 17 500 communes de France. Les contrôles de police se sont multipliés pour détecter les rassemblements illégaux. Un couvre-feu critiqué ce matin par Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, appelle à un assouplissement des mesures pour permettre aux salles de spectacle et autres salles de sport de poursuivre leur activité, à charge pour eux de tester leur public et de fixer leur jauge. Sur le front social, quelques 400 000 jeunes boursiers ou bénéficiaires des APL vont finalement bénéficier des 150 euros d'aide débloqués pour les allocataires du RSA dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté. À l'international, les Guinéens appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur nouveau président. La Guinée qui voit encore son scrutin partagé entre le président sortant Alpha Condé et son principal opposant, Seloud Alain Diallo. Enfin, en cyclisme, le Tour des Flandres qui s'élance à l'instant, mais à huis clos dans le contexte sanitaire actuel. Wout van Aert, mais également Julien Alaphilippe, bien sûr, sont donnés favoris.
103.7 bien sûr, toujours à l'écoute de votre radio locale du Sud d'Yvelines pour ce dimanche matin. Et dans quelques instants, on va retrouver Philippe Carnus et son équipe pour Tribune Sport jusqu'à 11h. Juste avant, eh bien, parlons de la météo avec aujourd'hui des maximales à 13 degrés attendus et un ciel qui restera globalement et bien nuageux pour la journée. Très bonne écoute.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnus.
De belle manière, avec donc une émission qui va se décomposer en deux parties, histoire de respecter naturellement les normes sanitaires. On aura en deuxième partie la section Aikido. On aura la section Aikido de Rambouillet. Et puis dans cette première partie d'émission, eh bien, on est content de recevoir et d'accueillir ce matin une ancienne athlète de haut niveau, c'est Solène Bodard. Solène, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Mais c'est un plaisir d'être là.
Alors, donc Solène, ancienne athlète de haut niveau, aujourd'hui reconvertie, on peut dire, dans le coaching sportif.
Oui, dans la préparation physique plus, quoi, parce que je suis préparateur physique à la base. Oui. Et effectivement, je coach aussi les particuliers depuis peu de temps, parce que c'était une forte demande, parce que j'habite déjà la commune de Brie-sous-Forge.
Oui.
Et c'est vrai que j'ai accepté de proposer mes services et mon expertise au service des particuliers qui vivent dans le secteur de la communauté de communes du pays de Limours.
Voilà, donc on va rappeler effectivement, c'est ce que j'allais dire, Brie-sous-Forge, je suis pas très loin d'ici, c'est dans le département voisin, hein, mais c'est tout à côté de Limours. Alors, moi j'ai envie de savoir comment le sport est entré dans votre vie, comment c'est arrivé?
J'ai un parcours très atypique.
C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'ai
un parcours atypique. Effectivement, moi, j'ai pratiqué l'athlétisme toute jeune. J'ai été repérée à l'école primaire. Mmh. Et après, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire un petit peu.
C'était où l'école primaire? C'était
ici des Moulineaux.
Ah oui.
Je suis originaire d'ici des Moulineaux.
C'est une ville de sport. Hein.
C'est une ville de sport très très sportif. Ici des Moulineaux, et puis qui mettent vraiment des choses en place pour permettre aux jeunes d'accéder au sport. Moi, j'ai touché un petit peu à tout quand même avant l'athlétisme, parce que moi, j'ai fait l'école municipale de sport. À l'époque, c'était l'OMS. Donc j'ai touché au hand, au basket, au football féminin.
À l'époque déjà.
J'ai atterri à l'athlétisme parce que j'étais un peu individuelle et puis j'aimais bien courir vite. Donc j'ai atterri dedans. Et en fait, j'ai fait mes premiers championnats de France J'avais 16 ans à Dreux. J'ai été repérée en fait par un entraîneur, à l'époque c'était un cadre technique national, qui m'a vraiment amenée au pôle espoir d'Aubonne. Donc j'ai fait un sport-études d'Aubonne, voilà, un cursus sport-études.
Ouais, alors on va rappeler qu'en sport-études, faut être bon en sport,
voilà.
Faut être bon à l'école. Hein.
Oui, voilà, faut arriver à concilier les deux. Et c'est vrai que moi j'arrivais d'un club où je m'entraînais pas beaucoup. Et on débarque dans un pôle où on s'entraîne quasiment 5 fois par semaine. Il faut concilier avec les études, c'était pas facile. Moi j'ai eu des difficultés, j'ai eu des blessures quand même. J'ai eu du mal un petit peu à rentrer dans le jeu. Après bon, j'ai arrêté suite à une grosse blessure en 2001. Et ensuite j'ai eu mon premier enfant.
Bah oui.
Voilà, entre la carrière et finalement j'ai emménagé plus tard. J'ai suivi mes parents sur la commune d'Elancourt. Donc 50 ans en Yvelines.
Tout près d'ici, donc voilà.
Voilà, hein. Ouais. Et à 50 ans en Yvelines, je suis revenue en fait, voilà, à mes amours de l'athlétisme. Je voulais tenter de reprendre quelque chose. Et voilà, je suis arrivée au club Le A 50 ans en Yvelines.
Oui, qu'on connaît bien.
Voilà, je me suis entraînée là-bas avec Philippe Lefebvre pendant une bonne période. Et puis il m'a amené quand même à retrouver un petit peu du haut niveau, le plaisir et la passion. Et de là, j'ai fait mes premiers championnats du monde là-bas, à Saint-Quentin. Ouais. J'ai fait Helsinki 2005.
Ouh là là, ouais.
C'était,
ouais.
Ah oui, oui, oui. c'était très très bien, mais c'était, j'avais peur un peu, j'étais stressée parce que c'était des championnats du monde, hein.
Ah bah oui.
Voilà, c'était pas rien.
C'est ce qu'on fait mieux avec les Jeux Olympiques, hein.
Voilà, c'est ça, c'était pas rien. Ouais. Et puis c'était de l'émulation, c'était un plaisir. Bon, je suis passée un peu à côté parce que c'est le stress, hein, je pense, hein. Je pense que je me suis laissé un peu émouvoir par le côté.
On va en parler parce que c'est super important ça. En sport, c'est le côté émotionnel.
C'est ça.
C'est souvent le cas en foot ou dans n'importe quelle finale. C'est très souvent le côté émotionnel qui fait la différence.
Exactement, exactement.
Eh oui.
Mais bon, ça c'est voilà, c'était bien quand même. C'était une très belle aventure. J'ai enchaîné la nuit suivante en fait sur les championnats du monde indoor à Moscou en salle. Donc pareil, j'ai pas fait des exploits, mais bon, j'y étais, c'était bien aussi. Et ensuite j'ai enchaîné par les Jeux de la Francophonie au Niger, à Niamey. Donc voilà. Et puis je devais faire en fait les JO de Pékin en 2008. Donc je les ai préparés, bon, peut-être pas la meilleure des manières. Et je me suis blessée quelques temps avant. Et c'était une grosse blessure. Et je pense que dans ma carrière j'ai eu beaucoup de blessures. Et à un moment donné, je pense que se faire opérer régulièrement et tout. Et j'avais aussi mon fils quand même pendant ma carrière, donc que j'ai pas beaucoup vu. Et je pense que c'était un choix un peu pas facile parce que je savais pas si j'avais envie de repartir parce que j'ai une grosse fracture de fatigue qui a fait que j'ai pas pu aller au JO. Et puis au final, j'ai dit que j'ai raccroché les pointes.
Vous aviez quel âge?
J'avais 26 ans.
Ah, quand même, c'est
j'étais jeune,
quand même.
Voilà.
Ah, oui,
je pouvais encore tenter de reprendre, de repartir.
Mais après, c'est bon.
C'est dans la tête, faut le vouloir. Et puis, je pense que les sacrifices à gauche, à droite, les tout. Et puis, j'avais pas une vie facile hein, aussi à côté parce que j'étais pas trop soutenue. Donc, je pense que je me suis un peu débrouillée toute seule. J'ai pas eu vraiment ma famille derrière. Donc, je me suis débrouillée. Et puis, je pense qu'à un moment donné, quand on n'a pas un soutien extérieur, on se dit pourquoi on court. Donc à un moment donné, on court pour soi, on court pour les autres, et puis finalement, j'ai décidé d'arrêter.
Parce que vous parliez d'avoir eu donc des enfants pendant votre carrière.
Oui.
Il y a beaucoup d'athlètes qui l'ont fait, Muriel Ortiz, notamment. Hein.
Oui. Bah après, après, elle est encadrée. Moi, j'étais pas soutenue, donc c'est une différence de vie, c'est une différence à chacun de comment il aborde sa vie. Moi, ma vie à moi, elle était très chaotique, donc j'ai un parcours qui est très difficile. Et après, faut être capable psychologiquement de pouvoir reprendre, parce que sachant que à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui où on pouvait être accompagné. Et faut pas oublier que l'athlétisme était un sport pauvre, donc en règle générale, on gagne pas des milliers et des cents. Souvent, on travaille un petit peu à côté, il faut trouver des sponsors, il faut trouver tout. C'est pas facile.
Même encore en ce moment
Même encore en ce moment.
Ouais.
En athlétisme, en ce moment. Mais bon, c'est déjà mieux qu'il y a longtemps, c'est déjà mieux qu'à notre époque, à nous. Donc aujourd'hui, ça peut être possible. Il y a des efforts qui se font, mais pas suffisamment. Il faut encore être derrière. Après, c'est normal. Enfin, je sais pas normal ou pas, mais Notre sport à nous n'est pas si médiatisé que ça, à part quand c'est les gros événements comme les mondiaux, les Jeux Olympiques et tout. Donc, c'est une question vraiment de financement, quoi.
Parce que vous savez qu'ici, dans la région, on a eu des grands champions. Daniel Sangouma, trois balles. même
Jean-Charles
Koukouré,
trois balles,
Sur, sur Viry, ouais.
Ça, c'est un super athlète, ça. et c'est vrai que voilà, moi.
Ils ont eu les mêmes problèmes que vous, il a fallu aussi que.
On a tous nos problèmes. Moi, je dis toujours, c'est l'entourage et puis c'est la psychologie de chacun, comment chacun remonte, comment chacun fait ses choix. Donc, moi, ce sont mes choix psychologiquement. Moi, j'ai pas tenu, hein, j'avais pas la force. Après, je suis nostalgique de la piste.
Parce que on va rappeler, c'était quoi vos disciplines?
100 mètres haies.
Ah ouais.
Voilà. Donc, on est toujours nostalgique de la piste, mais moi, je regrette pas d'avoir été. Je pense que par rapport à ce que j'ai vécu autour, ça me manque pas, en fait. Cette souffrance ne me manque pas. Oui. La seule chose qui me manque, c'est la piste. Voilà.
Non, et puis. Il faut le dire quand même, Solène, le sport c'est une merveilleuse école de vie. Et ça, qu'on gagne, qu'on perd.
Moi, ça a été
ça nous façonne. Hein.
Moi, ça a été l'école de ma vie. Je peux dire, c'est comme dans ma façon de voir les choses. Moi, je l'ai vu comme un médicament. Ouais. C'est comme un traitement, en fait, d'affronter en fait ma vie. J'étais une coureuse de haies, donc on franchit des haies, on franchit des obstacles. Mm-hmm. J'ai franchi des obstacles dans ma vie. Et on va dire que comme les haies, chaque haie que je franchissais, il y en avait une après. Ouais. Mais je pouvais toujours courir entre. Donc ça me permettait quand même de pouvoir affronter la vie et les épreuves. Mmh. Et cette force que j'ai eue, c'est une force que j'ai pu utiliser dans ma vie de tous les jours, dans la construction.
Et ça me sert encore aujourd'hui.
Et ça me sert toujours aujourd'hui.
C'est là qu'on se félicite d'avoir fait du sport, quoi.
Si, parce que le sport, c'est quand même beaucoup de stress, beaucoup de pression dans la vie. Hein, et c'est vrai que on peut quand même affronter en fait notre vie de tous les jours. Moi, ma vie de tous les jours aujourd'hui, sur les épreuves que j'ai pu avoir, c'est parce que je pensais toujours aux souffrances qui jouent dans l'athlétisme, mais je suis capable de pouvoir évoluer, avancer et construire, en fait. Mm-hmm. Donc, effectivement, c'est une très, très belle école de la vie.
Alors, donc, vous arrêtez la carrière et vous décidez de devenir coach sportif. Mais ça n'a pas été un parcours facile, quand même. On passe par les banques, on passe par des métiers, voilà.
Oui, effectivement, ça a été... Pour moi, ça a été un parcours assez atypique parce que quand j'ai arrêté, j'ai pas gagné beaucoup d'argent, on va dire. J'ai d'abord cherché à ce que j'ai pas construit au niveau des diplômes, au niveau des études. J'y ai pas pensé, je pense que j'étais dans ma petite bulle de faire ma star ou d'être contente de courir. Mais c'est vrai que quand j'ai arrêté, je suis revenue vite à la réalité parce que j'avais pas vraiment de diplôme. En fait, j'avais un BPJEPS, quand même un diplôme d'éducateur sportif.
D'accord.
J'ai quand même travaillé j'ai travaillé dans les mairies, j'étais éducatrice, j'étais éducateur sportif. Et ce qui s'est passé, ce sont des métiers assez précaires. Donc, un peu à gauche, les contrats sont pas toujours stables. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai quand même un enfant et j'aurais peut-être bien aimé être comme tout le monde, avoir un travail, son salaire et pouvoir construire une vie. Et puis, j'ai été conseillée, moi, par la Cité des métiers à Trappes à l'époque, qui m'a orientée vers la banque. Parce que, pour eux...
Paradoxalement, non enfin,
paradoxalement, bon. Je suis un peu sportive de haut niveau. Je sais supporter la pression. Donc, j'ai la capacité de supporter une pression telle que ces métiers. Mm-hmm. Sauf que nous, la pression, il ne faut pas oublier, on était sportifs et on a fait un choix. Donc, la pression, on la supporte quand on l'aime. Moi, l'athlétisme, j'aimais, c'est une passion. Donc, j'étais capable, en fait, de supporter certaines pressions. La banque, c'est pas pareil, c'est pas un métier que je connais, j'arrive ailleurs.
C'est vrai qu'entre nous, c'est
au glamour. Oui. Donc, après, j'ai travaillé dedans quand même je suis restée quand même bien 4 ans. Hein, donc, mais j'ai vécu des choses pas très intéressantes, pas très bien, parce que c'était pas mon milieu, c'était pas ma personnalité. Je connaissais pas et puis j'ai perdu un petit peu ma personnalité parce que je suis quand même une personne de caractère. Donc comme j'étais pas dans mon milieu, du coup j'ai eu peur en fait de m'exprimer par peur d'être jugée sur quelque chose, je ne sais pas. Donc je me suis laissée faire, bizarrement, étonnamment, tout le monde a été surpris. Et après un jour, et je vous cache pas que quand même j'ai fait une bonne dépression quand même, j'ai pas peur de le dire aujourd'hui.
Ah quand même.
J'ai pas peur de le dire que j'ai fait un burn-out parce que ça fait partie de mon parcours, ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. Donc j'ai été accompagnée quand même.
C'est le fait de s'arrêter
D'avoir atterri dans quelque chose qu'on connaît pas, qu'on n'a pas appris. Et puis c'est pas mon monde. Et à un moment donné, on se dit qu'est-ce que je vais faire? Parce que toute ma vie, si je vais rester là-dedans, ça va être compliqué, quoi. Parce que travailler, c'est un travail qu'on doit quand même mener jusqu'à sa retraite. Et c'est long. J'avais quand même 20, j'avais même pas 30 ans. Ouais. Donc, effectivement, je savais pas comment en sortir de là. Donc, j'ai fait quand même cette dépression qui a mené à un burn-out quand même. Mais par contre, un jour, j'ai regardé mes enfants parce que j'ai d'autres enfants et je suis mariée. Mm-hmm. Et j'ai regardé mon mari et mes enfants. Et j'avais pas le droit d'en faire subir ça.
Ouais. Donc, c'est ça qui fait qu'on sort.
Voilà, c'est dans leurs yeux que j'ai décidé.
Faut que je me bouge, quoi.
Voilà, dans leurs yeux, j'ai décidé de me dire non, ça suffit. Va falloir se réveiller et puis aller chercher des solutions. Mm-hmm. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'habite la commune de Brie-sous-Forge. Mm-hmm. J'ai été en fait voir la communauté de communes au service emploi. Et j'ai rencontré une conseillère superbe. Voilà, je dis son nom, Marina Gamberini. Marina m'a beaucoup accompagnée, soutenue, parce que quand elle m'a rencontrée, j'étais vraiment pas bien et puis j'étais complètement perdue professionnellement. Mm-hmm. Et Marina, quand elle a su mon parcours, qui j'étais, elle m'a dit, non, c'est pas possible, tu vas y arriver, on va trouver les moyens de te faire emmener à tes objectifs, à tes projets. Et du coup, elle m'a orientée vers une conseillère de bilan de compétences qui est une psychologue du travail, donc Bernadette Lecomte, et qui m'a accompagnée. Voilà, ça a duré bien un an quand même, cette reconversion et tout. Donc j'ai fait mes premiers stages à Rambouillet.
Ah bah oui.
Voilà, dans un lycée en tant que prof de PS.
D'accord, et bah voilà. Oui.
Ouais, j'ai pas trop aimé le prof de sport, c'est pas trop fait pour moi.
Oui.
Et ensuite, par mon réseau.
Faut jouer un peu la police des fois, hein,
c'est
parce
ça.
Qu'on prend un peu les cours de gym.
Ouais, c'est pas pareil.
À la légère, quand
exactement.
Les jeunes,
mon réseau, j'ai été orientée c'est un kiné qui s'appelle Guillaume Lapasserie, ça a été mon kiné il y a longtemps. Il est aujourd'hui kiné de l'Estac à Troyes.
Oui.
Voilà, qui une équipe professionnelle qui a été en Ligue 1. Et Guillaume s'est battu que je puisse venir faire un stage justement pour savoir un petit peu ce qui m'animait. Et l'entraîneur Jean-Louis Garcia à l'époque,
bien connu dans le monde du foot,
voilà, Jean-Louis m'a accueilli dans son club, au sein de son équipe de professionnels, et j'ai été en fait accompagnée en stage avec Pascal Faure, qui est le préparateur physique encore aujourd'hui de l'Estac. Et Pascal Faure, un homme tellement gentil, passionné dans le partage, et en fait quand je suis arrivée avec eux en stage, ça a été en fait au début il me prenait comme une stagiaire, et quand on a commencé à discuter, il m'a dit mais t'es même pas une stagiaire, on partage, t'as une compétence, t'as un savoir en fait au niveau du sport, de l'athlétisme, en plus à savoir que j'étais déjà entraîneur technique régional au sein de la Ligue d'Île-de-France d'athlétisme depuis bien longtemps, donc j'ai toujours été quand même entraîneur de ligue, donc j'ai quand même un petit peu des savoirs quand même, des compétences en termes de sportives. Surtout que la préparation physique, c'est la base de l'athlétisme. Hein.
Ouais.
Voilà.
Bah oui.
Et donc, du coup, à ce moment-là, ça a été la révélation. J'ai compris que la performance, elle était partie intégrante de ma vie, et que c'était là, en fait, qu'il fallait que j'y aille, quoi.
D'accord. Et vous avez découvert un nouveau milieu, le milieu du foot.
Voilà. Et le milieu du foot, j'ai adoré. Ouais. J'ai aimé parce que c'est un sport assez complet. Et on s'amuse parce que c'est ludique, c'est complet. J'ai vraiment aimé ce sport. Et j'ai décidé en fait en sortie de ce stage de m'orienter vers la préparation physique. Alors j'ai fait une formation quand même bien pendant un petit moment avec transfert à Paris, et j'ai choisi mes stages en fait dans le football. Et quand j'ai fini à Troyes, j'ai été en National 2 à Fleury.
Oui.
Voilà. Donc Pascal Bovis, qui est président, qui m'a accueilli.
Ouais,
c'est Pascal qui m'a accueilli.
Grand monsieur.
Voilà, qui m'a laissé faire ce que je voulais.
Oui,
quoi,
oui,
et
oui.
Je peux dire
ça
que c'est une personne qui a du cœur. Il est ce qu'il est, mais moi, il m'a donné ma chance. Il m'a permis de faire mon stage avec la National 2 avec Nicolas Dupuis. Et tous les préparateurs physiques étaient là-bas, Florent Mulot. Et ensuite, j'ai travaillé un petit peu avec la division 1 féminine.
Ah ouais.
Voilà. Et ça a été vraiment des super moments que j'ai passé dans ce club. Et toujours, j'ai toujours la bienvenue. Il m'a dit, tu es la bienvenue, il n'y a pas de souci. Et j'ai eu vraiment des... Voilà. Et après, à ce moment-là, j'ai décidé de devenir indépendant. Parce que j'ai passé un diplôme de psychologue du sport sur la préparation mentale. Et du coup, j'ai accompagné des joueuses en préparation mentale.
Hyper important.
Très, très important. Et de ce fait, avec le temps, j'ai commencé à entrer en lien avec des agents et qui ont commencé à m'envoyer des joueurs de football de National 2. Donc j'ai beaucoup coaché des joueurs de foot, sur la préparation physique en indépendant. Et après, voilà. Et en fait, c'est un jour, c'est une dame qui m'a trouvé, en fait, qui cherchait un coach sportif dans l'Essonne. Et elle m'a trouvé, elle m'a appelé. J'ai dit, je coach pas trop les particuliers. Bon, elle avait des soucis, parce qu'elle avait eu un accident. Et finalement, j'ai accepté. J'ai dit, bon, je vais essayer d'ouvrir un petit créneau dans le secteur parce que j'y habite. Et c'est de là que j'ai commencé à coacher les particuliers dans le secteur de la CCPL. Sur le coaching privé.
Donc ça vous amène à ouvrir une salle.
Ça m'a amené à ouvrir une salle parce
à Limours, c'est pas très loin.
Voilà, sous la commune de Limours.
Ça commence ça dans quelques jours.
Ça commence dans quelques jours si la situation sanitaire nous le permet. Oui. Malheureusement, voilà, ça dépend pas que de nous. On est disponible, on est là. Maintenant, les restrictions qui font que ça sera retardé ou pas. Donc,
alors, à Limours, c'est pas loin, c'est tout près de l'église. Hein, tout près de l'église et puis la mairie, c'est tout petit dans le centre-ville. On se trouvera donc
voilà, c'est ça.
Très facilement.
Voilà, c'est ça.
Oui. Donc, il y a une petite immersion dans le golf aussi.
Oui, c'est une immersion parce que pourquoi le golf? C'est parce que j'étais dans la préparation mentale et puis j'étais juste partie pour voir un petit peu ce que c'était parce que j'avais accompagné un golfeur sur la préparation mentale.
Ah, c'est important.
C'est important, très important
pour le golf.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et quand je suis arrivée là-bas pour juste, en fait, moi, je suis comme ça quand je suis un petit peu quand je découvre un sport, je suis toujours curieuse en fait de le pratiquer. Bon, je suis jeune, hein, je peux encore me permettre des choses. Je suis sportive. Donc je suis partie tenter à Courson. Le golf U-Golf Academy qui est le stade français. Donc ça fait un an et demi que je golfe là-bas. Donc en fait quand je suis arrivée là-bas, il y avait des pros et de fil en aiguille, j'étais juste venue tester et finalement je suis devenue golfeuse. Donc ça fait un an et demi que je golfe maintenant et puis je suis pas mauvaise hein. Donc ça va, je fais des parcours et tout et puis voilà et puis maintenant le fait d'avoir découvert le golf. Et les aspects aussi, la préparation physique, parce que je suis curieuse aussi, et puis j'ai commencé comme ça, petit à petit, à goûter.
Alors donc maintenant, la priorité, ça va être votre salle.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on va y travailler? Qu'est-ce qu'on va y développer
Alors la salle s'appelle Mastana Sport, qui est mon deuxième prénom.
Ah, d'accord.
Mastana, Solène Mastana. Et en fait, Mastana Sport, j'ai voulu partir sur un concept d'accompagnement, voilà, et de conseil. Le but en fait voilà c'est d'être présente, c'est une petite salle de sport, c'est pas une grosse salle de sport, c'est une toute petite salle avec un concept d'accompagnement et de conseil. Le but c'est que je sois régulièrement là pour voilà conseiller les adhérents qui seront présents et voilà c'est des cours collectifs qui vont mettre
en place. Oui, il y aura des cours collectifs.
Voilà, mais pas au-delà de 6 personnes.
Le but
c'est vraiment l'accompagnement, c'est que les gens s'y sentent bien et de leur permettre en fait de faire pratiquer du sport en bonne santé. Et de pouvoir être présente et vraiment dans le conseil quotidien. Et voilà, il y aura quand même de la préparation physique toujours parce que j'ai encore mes sportifs qui viendront.
Oui, j'allais dire pour quelle cible? Pour tout le monde? Pour le commun des mortels qui fait pas forcément du sport?
Voilà,
comme,
pour tout le monde. J'ai mes sportifs pros,
sportif
mais. Aguerri, viennent,
ouais.
Voilà, mes sportifs pros, eux, ils viennent à mes heures de fermeture parce que, voilà, je suis obligée d'être dans la confidentialité aussi et dans la tranquillité. Je suis obligée de fonctionner comme ça. Après, les autres sportifs amateurs de tous les clubs, ils peuvent venir voilà à mes heures d'ouverture ou à les heures de proposition. Il y a la préparation physique, il y a la psychologie du sport, il y a la réathlétisation pour justement les sportifs blessés qui veulent retrouver un petit peu leur état de forme pour leur sport. Et puis voilà, et puis il y a les particuliers qui seront là aussi pour du coaching privé ou peut-être une blessure parce qu'il n'y a pas que les sportifs pros qui se blessent hein, il y a aussi des gens aujourd'hui qui peuvent se blesser. Moi j'ai eu des gens qui ont eu des accidents de voiture. Voilà, qui se sont fait opérer et puis il faut réathlétiser, il faut remettre en route les gens, ça passe aussi à travers le sport aussi. Donc on appelle ça la réathlétisation. Et puis voilà, j'ai ouvert des cours collectifs pour du fitness, pour la gym douce, parce que c'était une demande quand même, la gym douce pour...
Et quelle que soit la tranche d'âge.
Quelle que soit la tranche d'âge, voilà, c'est ça. À partir de 16 ans, de toute façon, on peut pas pratiquer de sport, enfin du moins la musculation, avant 16 ans.
Voilà. Donc ça sera ouvert tous les jours.
Ça sera ouvert tous les jours, du mardi au samedi.
D'accord.
Voilà, le mardi au samedi, le mardi jeudi de 7h30 à 19h, le mercredi de 9h à 21h. Et voilà, le samedi de
cette... Vous avez un site internet sur ceux et celles qui sont intéressés
Oui, de toute façon, quand on tape Mastana Sport, on tombe sur mon site. Parce que déjà, comme j'étais sportif auparavant, on me trouve facilement. Déjà, quand on tape mon nom, Solène Baudard, alors on voit tout ce qui se passe.
C'est ce qu'on a fait, nous, en tant que journaliste. Hein.
Voilà, on me trouve assez facilement. Donc, Mastana Sport, voilà, on le trouve facilement. Le site internet.
Très bien. Bon, bah tiens, je vais vous faire envoyer la pub. Hein ?
Allez, on envoie la pub, c'est parti.
Vous voulez vendre, acheter un bien sur Aufargis, Le Perret ou Vieille Église ? Appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImmoJust. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb, Loire Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines 01 34 83 80 10. www.agendadiagnostic.fr.
À Rambouillet, 14 bis rue Chal, SMA Fenêtre, votre spécialiste de la menuiserie extérieure, vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres. Store, volets, portes et portes de garage. Sur mesure, en PVC, bois ou aluminium. SMA Fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste SMA Fenêtre, 14 bis rue Chal à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
RVE, vivez votre région. RVE, 103.7.
I draw some line and made you cry. Broke your heart. What a foolish guy. Played with your head, cheated in bed, and though you knew, not a word to say. Now I'm begging you, baby, please come back to me.
Back to you. Pratiquez le sport dans votre région avec RVE.
Oui, 10h29 minutes, cette émission, vous pourrez naturellement très rapidement la réécouter en podcast. Solène, la blessure, elle est quand même hyper importante sur le plan psychologique.
Hein. Ah c'est, oui, oui.
C'est celle qui détermine, et on en parlait hors antenne, il y a certains pays où on est et on vit avec la blessure quand on fait du sport de haut niveau.
De toute façon, s'il y a un truc, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, hein, c'est que la blessure dans le sport de haut niveau, elle est là, quoi. Elle peut, elle fait partie, on va dire, à peu près intégrante de notre vie sportive de haut niveau, parce qu'on pousse quand même son corps à bout et on fait des choses quand même qui sont pas toujours normales.
C'est pour ça qu'on dope parfois.
Je sais pas, le dopage, moi je rentre même pas dedans.
Non, c'est bien, c'est bien. Non mais.
Mais je dis juste qu'en fait, il faut juste en fait en prendre conscience que ça peut arriver. Et il faut faire de la prévention, et c'est pour ça qu'il existe des préparateurs physiques, vraiment. Il faut être encadré par une très bonne équipe médicale, le médecin du sport, l'ostéopathe, le kiné. Et voilà, il y a un encadrement qui se met en place. Effectivement, la blessure, on peut soit la ralentir, soit la minimiser, mais dans une grande carrière, elle est là, quoi. Faut juste maintenant prendre conscience et de comment on revient, de comment on la guérit et de comment on fonctionne. Mais psychologiquement, c'est quand même quelque chose qui impacte le sportif parce que ça moralement, voilà, surtout quand on prépare des gros championnats. Et il peut arriver d'avoir une blessure juste avant un grand championnat. Et maintenant, moi, ça m'est arrivé. J'ai eu une grosse blessure avant un gros championnat. J'ai pas repris derrière.
Ah oui.
Et il y a des gens, voilà, parce que j'étais pas aussi encadré que ça. Il y a des gens qui sont très très bien encadrés, et voilà, il faut prendre conscience que on l'a eu. Il faut retourner, et psychologiquement, c'est quand même difficile. Faut le dire, psychologiquement, c'est quand même difficile.
Alors justement, c'est aussi votre rôle maintenant de conseiller, d'aiguiller des jeunes dès qu'ils commencent à faire du sport,
c'est
à bien
ça.
Se préparer, parce que la blessure, ça peut arriver aussi à tout le monde.
Hein. Ah bien sûr, la blessure, ça peut arriver même à un sportif amateur.
Mal préparé.
Puis voilà, moi aujourd'hui, je suis beaucoup dans la prévention parce que voilà, faut pas oublier que les jeunes qui arrivent même dans le football à un certain âge, on va dire à 12 ans, quand ils arrivent à l'âge de la puberté, il faut travailler en termes de coordination. Il y a des choses qu'il faut travailler et pour leur permettre justement d'avoir à un moment donné dans l'avenir quand même quelque chose de solide qui tienne la route, quoi. Parce que si un jeune qui rêve de faire de professionnel un jour, hein, peu importe, voilà, il faut que les entraîneurs même dans les clubs, voilà, on n'est pas là pour seulement entraîner, le plaisir d'entraîner, faire du jeu aux enfants. Il faut aussi se prendre la tête, savoir comment j'entraîne, comment je travaille des choses.
Oui, mais le problème, c'est que ces gens-là, c'est des bénévoles, mais c'est peut-être pas toujours des gens qui sont au courant de tout ça, quoi.
Mais malheureusement,
c'est l'éternel problème.
Oui, mais on est bénévole.
Oui.
On a choisi de venir encadrer un sport. On se doit quand même d'aller être curieux, de comprendre, parce que quand même, c'est des enfants qu'on a entre les mains. C'est quand même, ils sont en pleine croissance. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place en eux. Et on peut pas faire n'importe quoi. Donc dans ces cas-là, moi j'étais bénévole, hein. J'ai commencé à entraîner en tant que bénévole. Donc j'ai fait des formations quand j'ai commencé à venir dans un club d'athlétisme. Et, à l'époque, j'ai commencé à 50 ans en Yvelines à entraîner. Et avant d'entraîner, on m'a payé des formations par le club pour aller comprendre parce que comment on peut orienter entraîner des jeunes. Moi, comme je le dis, hein, faut pas oublier, hein, on choisit de vouloir accompagner des jeunes dans le sport, même si on est bénévole, ça n'empêche pas d'être curieux quand même, être curieux de comprendre un petit peu comment ça fonctionne un jeune. Donc, et puis après de là, on fait pas n'importe quoi parce que après il y a surtout à 10 ans, on commence à avoir la maladie sévère, les talons qui s'enflamment, les tendons d'Achille, les genoux, les machins, donc. Les gamins, ils se retrouvent après 3-4 semaines, ils peuvent pas aller faire de sport, ils comprennent pas, j'ai mal.
Est-ce qu'il y a pas les parents aussi qui poussent un peu trop parfois?
Si, beaucoup. Ça aussi. Surtout aujourd'hui, c'est la génération de parents qui rêvent que tous leurs filles soient des Mbappé.
Donc, oui, non, mais voilà.
Et c'est pas possible, et les parents doivent vraiment comprendre qu'à 10 ans, à cet âge-là, où il faut les laisser s'amuser, quoi.
Voilà.
Prendre le plaisir, profiter. Et ils auront le temps, à un moment donné, de pouvoir faire des choses. Mais on pousse pas les enfants à cet âge-là comme ça.
Et puis un bon équilibre aussi avec les études, avec le reste, effectivement.
Exactement. Après, quand l'enfant a plus tard, je sais pas, 14 ans, il a envie de faire vraiment du professionnel, du haut niveau. Oui, là, on commence à travailler l'encadrement. Ne pas oublier les études, c'est très important parce que si on n'encadre pas ces deux côtés-là, il va arriver à un moment donné quand il peut avoir la blessure, hein, qui fait qu'il pourra plus rien faire. S'il a rien fait à côté, c'est compliqué. Et il peut arriver aussi que, voilà, moi j'ai un fils de 18 ans hein, qui rêvait d'être professionnel. J'ai quand même tenu qu'il parte pas gauche à droite, quoi. La carotte était les études.
Ben oui.
Voilà, je suis passée par là, je sais de quoi je parle. Et je peux vous dire que quand on n'a rien derrière, c'est, même si on a des parents qui ont les moyens ou autres, ça n'a rien à voir. C'est une question morale, c'est une question psychologique. On est là, on ne sait pas ce qu'on a envie de faire. Il faut travailler tout ça derrière. Donc, c'est très, très important de pallier aux deux.
Est-ce que vous pensez que, là on déborde un peu, les sportives et sportives de haut niveau, elles sont beaucoup mieux accompagnées qu'il y a 20, 25, 30 ans? Parce que c'est vrai que la France n'est pas un pays de sport, c'est un pays, j'allais dire, de sport occasionnel. On s'intéresse au foot quand il y a le mondial, on s'intéresse aux Jeux Olympiques quand il y a les Jeux, on s'intéresse au Tour de France quand il y a le Tour, mais c'est tout, quoi.
Moi je trouve qu'il n'y a pas assez de moyens.
Ouais, ouais, ouais.
Je trouve qu'en France, il faut vraiment qu'on arrête de croire que le sport c'est que du loisir. Il y a des gens qui ont, c'est leur vie, quoi, qui ont envie.
En Angleterre, Allemagne,
en Angleterre,
on vit avec ça.
Que je connais, moi, j'ai ma famille en Angleterre, je sais comment ça fonctionne. Ça tourne bien, même en Allemagne, même au Luxembourg, même, hein, ça tourne un petit peu mieux. Oui, ils ont l'école le matin et puis l'après-midi ils ont les activités sportives culturelles, parce qu'il n'y a pas que le sport, il y a les activités culturelles qui sont derrière. Et je pense que nous, ici, on a l'impression que le sport, c'est un loisir, quoi. Mais après, tout le monde est content quand il y a les JO, quand il y a les championnats du monde et qu'on a représenté la France. Mais les gens ne savent pas tout ce qu'on a mis derrière pour arriver en haut. Parce qu'en général, nous, moi, je parle de l'athlétisme, les gens se sont préparés quasiment tout seuls, chercher leurs sponsors, travailler, trouver des partenaires.
C'est incroyable.
Et puis, ils vivent des choses difficiles, mais ils arrivent à ramasser des médailles, quoi. Et vous imaginez même pas s'il y avait eu cet accompagnement réel, mieux, ce qu'ils auraient pu faire, quoi. Parce qu'avec rien qu'avec le peu qu'on a, on arrive quand même à faire des choses et c'est dommage. C'est bien dommage.
Bon, bah vous êtes aussi conseillère municipale. Beaucoup d'activités. Quelles vont être vos principales actions? C'est justement d'accompagner tous ces jeunes, de provoquer des petits événements qui vont leur permettre d'aimer le sport.
Oui, après, c'est deux choses différentes parce que je suis préparateur physique.
Mais on va en parler.
Voilà, c'est ça. J'ai été élue effectivement au développement du sport pour tous au sein de la commune de Brie-sous-Forge, bien sûr. Voilà, pour le moment, on va travailler les axes avec le maire et l'équipe pour savoir où est-ce qu'on va aller, ce qu'on pourra faire, parce que c'est un chantier qui est assez nouveau sur la commune de Brie-sous-Forge. Donc le chantier du sport, voilà, nous, on va y travailler dessus pour amener à quelque chose. Et puis, faut pas oublier que ça prend du temps. Hein. Il y avait pas ça auparavant. Il faut construire. Et construire, voilà, il faut bien construire aussi parce que je sais qu'il va y avoir peut-être normalement le but, c'est peut-être un gymnase. Sur la commune de Brie, les infrastructures qui sont là, savoir comment on va développer tout ça et voilà. Pour le moment, on est dans le chantier et puis.
C'est-à-dire qu'on va créer certaines actions pour faire.
Voilà, c'est ça.
Aimer le sport aux jeunes.
Exactement. C'est ça. Exactement. Ouais, ouais. Le but c'est ça. Le but c'est d'aimer. Bon, voilà. Moi j'ai aussi mon expérience du passé. J'ai quand même travaillé dans beaucoup de mairies, notamment ma dernière était la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuses.
Oui, ouais.
J'ai habité avant de venir à Brie-sous-Forge, effectivement, avant même de rentrer à la banque, comme j'expliquais les métiers assez précaires, parce que je travaille en fait pour profession sport et loisirs.
Oui.
Voilà. Donc et en fait profession sport en fait ma mine, j'ai dit
on a travaillé avec eux il y a quelques années
voilà bon, parce que je connais bien la directrice qui gère bien quand même, c'est une bonne équipe. Moi ils m'ont beaucoup soutenu, beaucoup aidé par le passé et j'avais été mise à disposition sur la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuses pour travailler en tant qu'éducateur sportif dans les écoles parce que Saint-Rémy-les-Chevreuses avait mis en place un prof de PS de sport pour les écoles primaires. Donc eux ils étaient contents parce que avec mon expertise j'ai pu amener en fait beaucoup d'activités multisports au sein des écoles. Donc je travaille à temps complet sur une, deux, trois écoles de Saint-Rémy-les-Chevreuses. J'ai mis en place beaucoup de choses, des activités de contrat de ville en soirée. Ça permettait en fait aux enfants de toucher à tous les sports et en fait au final à l'avenir. De décider, on va dire, souvent, c'est quand on est en cinquième, on commence à avoir envie d'aimer un sport. Et le fait de faire une école municipale des sports sur des multisports, de toucher à tous les sports, et c'est intéressant parce que le gamin, il peut peut-être choisir, me dire, ah, je préfère peut-être le basket, ou j'ai bien aimé l'athlétisme. Et nous aussi, moi aussi, qu'en tant que prof de sport, et puis en tant que, avec mon expertise aussi, j'ai la capacité aussi de pouvoir orienter un gamin. Le gamin me donnait en fait sa vision, ce qu'il aimait, et moi je lui donnais aussi mon point de vue. Et après il décidait à la fin, et moi j'en parle aux parents. Et souvent voilà. Et quand je suis partie, ils étaient très tristes.
Ah bah
les parents, ça a fait quand même.
Et il y a compliqué. Des prédispositions mentales, physiques, c'est ça oui. que vous regardez
c'est ça.
En priorité, parce qu'on oui. peut être doué pour peut-être pour une activité physique plus que pour une autre.
C'est ça.
Et pas forcément aimer ce sport-là en priorité, c'est la grosse difficulté quoi.
Après, il faut c'est une question mentale, c'est une question aussi quand on fait comme ça du multisport avec des enfants, il faut aussi être capable de d'écouter l'enfant en fait, de se mettre à son niveau, c'est-à-dire se mettre à son niveau. Et puis quand on perçoit une certaine capacité, même s'il aime pas, peut-être qu'il aime pas parce que soit il a peur, il y a d'autres choses, et à partir de là, faut échanger. La communication, l'échange, et le mettre dans un climat de confiance pour lui faire voilà. Maintenant, s'il aime réellement pas, ben il fera autre chose.
Bien sûr.
Faut c'est le plaisir avant tout. Hein. Le sport, c'est le plaisir. S'il y a pas de plaisir, même si on fait du haut niveau avec pas de plaisir, c'est compliqué d'arriver à quelque chose.
Solène, en tout cas, merci. On vous recontactera assez souvent tiens, pour nous donner des petits conseils pratiques.
Hein, bien sûr, il n'y a pas de
souci. Pour ceux qui partent au ski, par exemple, ça sera intéressant.
Oh, bah oui.
Hein, juste un petit mot. Vous êtes une grande copine à Nantoni Keita. Hein.
Nantoni Keita, Nantoni, bonjour Nantoni. Tu m'écoutes ?
Voilà. On l'avait vu à Lima, elle avait accompagné la délégation
oui,
française.
C'est une très belle personne, Nantoni. Ouais. C'est une très, très, très belle
elle
personne.
Elle a vu des mots très forts, hein, d'ailleurs.
Oui, je sais. C'est une belle personne, une belle sportive. Et voilà, et puis elle réussit très bien, c'est mérité. Et c'est à l'image d'elle-même.
Voilà, très bien. Eh bien, merci. Pour des raisons sanitaires, on passe la pub.
Voilà.
On vous laisse sortir et on
pas
reçoit nos amis de
plaisir.
La section Aïkido de Rambouillet. Merci.
Merci.
Au cœur de la vallée de Chevreuse, les salons Léopold. Le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h du matin, un buffet à volonté fait maison. Boissons comprises et soirée night club. Le dimanche à partir de 11h30 à 18h, un brunch fait maison. Avec les spécialités des fermes de la vallée de Chevreuse. Un salon de thé avec après-midi dansant et animation enfant. Les salons Léopold à Cernay-la-Ville. Réservation et information sur www.salonleopold.fr et au 01 34 85 20 02. 01 34 85 20 02.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohar, pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur, Sébastien Mohar, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur, Sébastien Mohar, 13 bis rue de la Libération, à Sonchamp.
RVE, vivez votre région. 3-7.
La peau du Dr. Jekyll. Dr. Jekyll. Dr. Jekyll.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Voilà, on est ravis en tout cas d'accueillir nos amis de la section Aïkido qui vont rappeler leur nom, puis se représenter.
Bonjour, Bruno Monti, voilà. Président de la section Rambouillet Aïkido.
Accompagné
bonjour,
de...
Anthony Lecomte, je m'occupe de la section enfants et adolescents.
Alors, messieurs, je suppose que ça ne doit pas être facile de pratiquer votre activité sportive en ce moment. Il n'y a déjà pas eu de forum des associations. Comment avez-vous fait quand même pour attaquer cette rentrée?
Ah justement, on s'est rapproché de la section judo, karaté, taekwondo et boxe française pour organiser quelque chose au sein de la galerie marchande du Bel Air.
Oui, j'ai lu ça un peu
donc,
partout.
On a eu beaucoup de contacts. On a eu beaucoup de contacts sur toutes les sections présentes. Il y avait le taekwondo et le karaté, parce que la boxe avait une contrainte professionnelle, on va dire. Et puis le judo n'a pas souhaité participer. Mais sinon, c'était très sympa. On a eu de bons contacts. On a eu des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le forum.
Ah bien.
Ouais, des gens des communes périphériques à Rambouillet qui sont venus. Donc ça, c'était intéressant. Alors ça s'est pas transformé à l'instant sur le tatami. Je pense que les contraintes, on leur a expliqué, sanitaire, port du masque pendant la pratique, qui venait de tomber au moment de l'intervention, a fait que, malheureusement, on a eu très peu de nouveaux, un peu plus pour les enfants, par contre, mais au niveau des adultes, très peu.
Voilà. Est-ce que c'est pas les prémices, quand la vraie vie va revenir, d'une nuit des arts martiaux, qu'on a connue dans le passé, nous?
Alors, en tout cas, les liens entre le taekwondo et le karaté étaient déjà présents, surtout avec le karaté, un peu moins avec le taekwondo, pas parce qu'il y avait des problèmes particuliers, mais simplement parce qu'on se côtoie pas, voilà. Oui. Mais là, on a créé des liens. Le président du club de taekwondo est venu nous voir l'autre soir. J'ai vu passer la tête pendant le cours. C'était sympa. Je pense qu'il va y avoir quelque chose. Il va y avoir quelque chose. Maintenant, il faut qu'on puisse repratiquer décemment. Là, on a le décret qui vient de tomber.
Oui, le couvre-feu, alors ça va se passer comment pour vous?
Comme pour nous, beaucoup de clubs
amateurs.
Initialement, j'avais eu les contacts avec le service des sports de la ville de Rambouillet, qui nous suit et avec qui on partage beaucoup de choses, et qui aide toutes les associations, quelles qu'elles soient, Aïkido ou autres. Et malheureusement, sur le principe, on aura été obligé d'arrêter nos cours à 20h30. Nous, on finit à 21h45, donc il aurait fallu trouver des tranches horaires différentes. Mais ça, on aurait pu s'arranger encore.
Oui, parce que c'est des créneaux qu'il faut utiliser, c'est des gymnases, il faut changer les créneaux. Et je suppose que vous les partagez avec d'autres sections.
Bien sûr. Et oui, c'est ça le problème. Et nous, on est pile pour les cours adultes, en tout cas, on est vraiment dedans, quoi. On subit plein pot le décret. Et là, il y a un décret qui est du préfet des Yvelines, qui ferme toutes les salles de sport.
Ah! D'accord, donc là.
Qui est paru ce week-end.
Là, l'affaire est réglée.
Voilà,
quoi.
Donc là,
il y a même plus possibilité de s'organiser.
Donc l'affaire est réglée. Alors, le monde d'aïkido est quand même très solidaire.
Oui.
Et nous sommes proches du 28. Et nous avons d'excellentes relations avec les clubs du 28.
Oui.
Et donc, avec le 28.
Eux ne sont pas en couvre-feu.
Ils ne sont pas en couvre-feu.
Oui.
Et donc, on va pouvoir peut-être faire quelque chose. J'étais tout à l'heure en ligne avec le président du club de Chartres, qui m'a dit oui, nous, on peut vous accueillir. Donc, on va regarder comment on peut s'organiser au niveau des horaires, comment on peut s'organiser au niveau du covoiturage pour que tout le monde puisse y aller dans de bonnes conditions. Mmh. Et puis on va regarder ça, quoi. Donc, on trouve des solutions. On trouve des solutions, mais c'est parce qu'il y a un bon état d'esprit dans l'aïkido et une solidarité entre les clubs, surtout proches de Rambouillet.
Oui, parce que vous n'allez pas refaire comme pendant le confinement ou par le biais d'Internet, faire des cours. Quoi.
Oui,
comme ça s'est fait.
Oui. On a fait ça. Et on a fait des cours dans le parc aussi avec notre professeur quand on a eu l'autorisation. Ça nous a aidés.
Oui, moi c'est vrai que pour revenir à ce que disait Bruno, moi ce qui m'ennuie le plus, c'est que j'ai vu que dans certains sports, en fait, les enfants pouvaient continuer. Donc là, j'espérais que ce soit le cas au niveau de la section Aïkido. Donc on va creuser un petit peu. Là, de toute façon, pendant les vacances.
Là ça s'arrête, c'est les vacances scolaires, donc ouais.
Après, vu que les cours enfants sont de 17h30 à 18h30 et les adolescents de 18h30 à 19h30. On avait possibilité peut-être justement de pratiquer encore dans les horaires hors couvre-feu. Donc c'est peut-être quelque chose qui pourrait être envisagé sous le fait que ce soit des mineurs. Moi, j'ai vu, je sais que je pratique l'escalade en bloc à Saint-Quentin.
Oui, oui. Ouais, ouais.
J'ai vu hier que, au niveau de l'info, que les mineurs pouvaient continuer à pratiquer dans la salle. Donc, peut-être que en discutant avec.
Oui, mais là, ça va fermer, là, comme les salles de sport sont fermées.
Non, voilà, là, mais peut-être que ça a changé entre hier et aujourd'hui.
Oui.
Alors, il y a certaines autorisations pour les scolaires et autres, pour les enfants de moins de 11 ans. Donc, faut voir. Enfin, je veux dire, moi, je ferai un point lundi matin avec le service des sports de Rambouillet.
D'accord.
Et je pense que c'est là que tout.
Mais pour vous, il y aura possibilité d'aller faire donc votre sport en Eure-et-Loire. Hein.
Alors, c'est l'idée.
Ouais. C'est bien.
Le contact a été pris, a été validé par un des présidents. Donc, on va voir pour maintenant, et ce qui permettrait, en fonction des emplois du temps respectifs de nos élèves, d'aller à droite ou à gauche, mm-hmm. en fonction de leurs possibilités. Et puis nous, ça nous fera du bien aussi, parce que hors bien de question de s'arrêter. Hein.
Bien sûr. Alors, on s'était vu en mars dernier, hein, à l'occasion de la venue d'un grand maître.
Ouais.
Je suppose que pour l'instant, il n'est pas prévu d'en avoir un en 2021. Hein.
Moi, j'avais repris contact. Repris contact avec la jeune femme qui devait venir faire la prestation au mois de mars. Donc, sur le principe, elle est toujours OK de venir, bien sûr, à Rambouillet.
Parce que c'était limite. Hein. C'était joué à quelques.
C'est le week-end. Concerné, de la frontière, quoi.
Ah ouais.
Comme ce week-end, par exemple, avec les arrêtés.
Ouais.
Et donc, on n'a pas réenclenché le stage, parce que tous les stages sont actuellement quasiment supprimés.
Ouais. Bah oui.
Tous les stages formateurs pour les gens qui préparent des grades sont supprimés. Le premier qui a eu lieu, c'était la semaine dernière, c'était dans l'Oise. Mais difficile pour nous d'aller dans l'Oise pour faire stage.
Ouais.
Pour ceux qui préparent, il y a quand même des coûts. Hein. Derrière et donc pour l'instant il n'y a pas de stage. Il y a des gens qui essayent de mettre en place des stages, mais là par exemple il y avait des stages qui étaient prévus dans le 77 avec Pascal Guimin qui était venu nous voir.
Oui.
Malheureusement le stage vient d'être annulé, quoi.
Bah oui.
Je veux dire c'est logique, hein.
Malgré tout, la rentrée s'est bien présentée au niveau des effectifs, des licenciés. Il y a des gens qui sont prudents, qui n'osent peut-être pas, qui attendent peu que ça aille mieux.
Je pense que le contact que nous avons eu lors de notre prestation dans la galerie marchande était très très intéressant, parce qu'on a touché des cibles de personnes qui voulaient faire de l'aïkido depuis longtemps et qui ne savaient pas qu'il y avait un club aïkido, parce qu'ils étaient dans des communes périphérique à Rambouillet, d'autres qui veulent reprendre une activité, qui ont fait du judo souvent,
oui,
d'autres qui ont fait de l'aïkido dans d'autres régions et qui s'installent sur la région. Donc forcément, il va y avoir à un moment donné
une frénésie
qui va se mettre. Enfin, en tout cas, on le souhaite.
Mais
je pense que les contacts étaient très très sérieux, très intéressants. Puisqu'on a pu parler des vraies valeurs de l'aïkido avec les personnes, et ça, je pense que ça va forcément tomber à un moment donné et les gens vont se réinscrire. Mais c'est vrai que le contexte ne s'y prête pas.
Alors vous êtes combien à l'heure actuelle, là, depuis septembre 2020?
On a fait un point, on devrait être une cinquantaine une fois que tout le monde aura payé ses licences, quoi.
Oui. Tranche d'âge représentée
comme d'habitude, on a une vingtaine d'élèves entre les enfants et les ados là en ce moment.
C'est ça.
Voilà. Et puis le reste en adulte.
Autant de filles que de garçons, il y a... Non,
non, non, on aimerait avoir un peu plus de jeunes femmes. Mais
d'accord, non, mais il faut le dire.
Pour l'instant,
parce que...
non. Mm-hmm. On a des fidèles, on a des personnes qui sont revenues cette année, des jeunes femmes. Et on a récupéré aussi un gradé d'un autre club qui vient à Rambouillet.
Quel est le prix d'une licence et d'une cotisation si on veut venir aux jeunes
Pour un adulte, ça revient à 232 euros pour l'année.
Oui.
Licence et cotisation de club, tout compris, et à peu près 115 en fonction de l'âge des enfants pour l'année. Donc les enfants, ils ont une heure de cours, les adolescents ont le droit de venir au cours adulte comme ils le souhaitent, et les adultes ont le droit à trois cours quand même. Hein.
Mm-hmm. Oui, parce que bon, dans la vraie vie, il y a combien de créneaux
Il y a trois créneaux.
Trois
mardi,
créneaux,
jeudi,
c'est ça.
19h45.
Au stade du Vieux-Moulin, hein.
Ouais,
c'est ça.
Le mardi, jeudi de 19h45 à 21h45, et le samedi de 10h à midi. Avec des stages, donc il y a trois intervenants différents le samedi. Hein. Il y a un professeur professionnel, André Meunier, 5e Dan, qui a créé le club d'ailleurs, qui officie le mardi et le jeudi. Et puis le samedi, il y a trois professeurs, Luc, moi-même. Donc on en profite pour fêter la Saint-Luc.
Pour pas hésiter,
un autre petit camarade de jeu, moi-même, et puis Philippe Lambert, 5e Dan, qui fait les cours. Et on a une intervenante toujours pour l'école de sabre Kashima, Josette Nickel, qui vient nous faire son cours, qui a commencé la saison et, mm-hmm. et tout se passe bien.
L'équipement, il est à la charge du pratiquant ou vous fournissez, vous, les...
Ah non. Nous, on fournit pour les débutants tout ce qui est armes, c'est-à-dire mm-hmm. les bâtons, les quennes, mm-hmm. les tantos, les petits couteaux spécifiques. Mm-hmm. Mais sinon, non, les pratiquants, dès qu'ils commencent à rentrer dans le jeu, à s'investir. On a une jeune femme qui a commencé il y a maintenant 2 ans. Elle a acheté cette année son kit complet avec son jeu pour avoir
ça. Ça se trouve partout, ça. C'est pas
non, magasin spécialisé.
Ah oui, quand même.
Magasin
quand
spécialisé.
Quand même, oui, on peut pas. Ouais,
mais il y en a partout. Enfin, je veux dire, il y en a plusieurs dans la région.
On est en région parisienne, mm-hmm. c'est facile. Ouais,
ouais. Et c'est pas très onéreux.
Ça dépend.
Parce que malheureusement, hein, ça compte aussi alors, hein, pour les parents.
Le set d'armes, il faut compter à peu près 150€ complet. Mais après, ça dépend de la qualité qu'on veut mettre. On peut en trouver un beaucoup moins cher, c'est évident. Mm-hmm. Avec une qualité et un risque de rupture pendant les stages. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Donc nous, on conseille d'investir sur du bon produit.
Bah oui, bien sûr. Avec un masque obligatoire aussi, non ouais. Vous avez un masque pour protéger votre sport?
Non, pas du tout.
Non,
enfin,
le
masque pour la pratique actuellement, oui, on pratique avec le masque.
Il faut dire, hein.
Oui,
ça.
Oui, tout à fait. Avant mi-septembre, pardon, on avait le droit de pratiquer sans masque, sauf l'enseignant.
Et oui,
qui se rapprochait de tous les élèves.
Mais là,
et
bon.
Par contre, on avait une contrainte, c'est que l'enseignant devait, même les élèves, on n'a qu'un seul partenaire pendant toute la durée du cours. Mm-hmm. On n'a pas le droit de faire les échanges de partenaires.
Oui, c'est pour assurer un peu les... Voilà.
Et on a une feuille de présence qui est en début de cours, inscrite. Et quand on fait la pratique des armes, par exemple, toutes les armes sont désinfectées à la fin du cours.
Ah oui.
Après, alors, au niveau de la section, des sections enfants et adolescents, bon, les petits, on leur oblige pas à porter le masque. Eux, ils peuvent pratiquer sans masque. Moi, du coup, pendant que j'enseigne, je porte le masque pendant l'heure. Et par contre, les adolescents, comme ils ont plus de 11 ans, eux doivent pratiquer également avec le masque. Et pareil, ils ont les mêmes contraintes que les adultes. Ils gardent le même partenaire pendant toute l'heure de pratique.
On va rappeler que la philosophie de votre sport, il n'y a pas de compétition.
Oui, tout à fait. Ah,
et j'aimerais bien qu'on rappelle un peu la philosophie de l'aïkido par rapport aux autres arts martiaux, même s'il y a des points communs. Le respect, la tolérance, ça c'est commun aux arts martiaux.
Oui, bien sûr, mais l'aïkido, c'est un art de vivre, moi je dis.
Oui, oui.
Et c'est parce qu'on travaille pour soi et on travaille aussi pour l'autre, puisque on dans notre temps de pratique, on n'a pas une heure de travail pour faire les techniques et puis l'autre heure on se repose parce qu'on attaque son partenaire. Non, on travaille autant le rôle de ce qu'on appelle uke, celui qui va venir faire les saisies et les frappes, que le rôle de tori, celui qui va pratiquer les techniques. Et le travail, c'est un échange, ça se construit et c'est du feeling et on apprend à travailler avec n'importe qui. Ça sent un raide, un mou, une personne qui a peur de chuter. On travaille. Il n'y a pas de conflit de génération en fait, parce que on a des jeunes qui travaillent avec des personnes d'un certain âge, donc ils doivent de faire attention. Des gradés qui travaillent avec des débutants, avec des appréhensions. Donc tout ça doit se faire et tout le monde doit au moment de sa pratique trouver du plaisir. J'entendais. La jeune femme parlait du plaisir dans le sport. L'aïkido, c'est ça.
C'est indispensable, ça.
On vient pour se faire plaisir. Et pour se faire plaisir sur un tatami en pratiquant de l'aïkido, il faut qu'on soit connecté avec l'autre. Et on vient pas là pour travailler qu'une demi-heure et puis le reste.
Voilà. C'est pas possible, sinon c'est pas possible. On continue
pas. Il y a pas de progression possible. Et ça, c'est intéressant.
Et pour finir, donc pour vous, c'est une véritable philosophie de vie, quoi. Dans votre vie de tous les jours, à travers la pratique de l'aïkido, ça vous accompagne, quoi.
On a un état d'esprit, tranquille, serein.
L'idée, c'est que ça arrive, c'est qu'on arrive à transcender la pratique en dehors du tatami, quoi.
Eh oui, c'est ça. Mais c'est aussi le but un peu souvent des arts martiaux. Hein. C'est un sport qui est de quelle origine?
Japonaise,
typiquement. Très bien. Bah, monsieur, merci, bonne chance en tout cas. Alors,
c'est nous qui vous remercions.
On peut quand même, si on veut s'inscrire et attendre la rentrée, retour des activités,
déjà,
on peut quand même.
Je tiens à préciser ce point, c'est qu'on recrute tout le temps. On accepte tout le monde parce qu'il y a des gens qui arrivent en milieu de saison et on les prend.
Donc vous avez un site internet,
il y a tout ce qu'il faut.
On vous écrit sur le site internet et puis vous rappellerez donc les futurs pratiquants et pratiquantes. Oui, bien sûr. Et puis merci d'être venu, n'hésitez pas.
Merci, merci à vous. Sans problème.
N'hésitez pas. Quand l'activité reprendra,
quand on va refaire un stage rapidement.
Voilà. Très bien. Merci, messieurs. Okay,
merci
en tout cas à Solène Baudard aussi d'avoir été notre invité dans cette première partie d'émission. Merci à Guillaume aussi d'avoir été une nouvelle fois brillamment aux manettes ce matin. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, hein, entre 10h et 11h. Bon dimanche à toutes et à tous et restez-nous fidèles naturellement. Salut.
Merci.
Merci.
La manifestation doit avoir lieu à 15h, place de la République, en présence du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Un hommage national lui.
RVE, il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous, des manifestations prévues un peu partout en France. Une mobilisation en hommage à Samuel Paty, cet enseignant d'histoire-géographie assassiné vendredi dans les Yvelines après un cours sur la liberté d'expression. C'est le cas notamment à Paris où une manifestation doit avoir lieu à 15h, place de la République, en présence du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Un hommage national lui est prévu mercredi. Et dans cette affaire, 10 personnes sont en garde à vue, parmi lesquelles les membres de la famille de l'auteur présumé du drame, un jeune Tchétchène de 18 ans abattu par les forces de l'ordre. Un parent d'élève, mais aussi Abdel Hakim Sifraoui, un prédicateur, figure de l'islamisme radical, dans le viseur des services de renseignement.